France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
RTBF,
Radio Télévision Suisse.
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager comme chaque semaine de l'été avec des auteurs et des artistes. Aujourd'hui, nous irons dans un vivarium avec Jean Tellet pour un voyage effrayant en Martinique. Nous partirons dans le Grand Nord grâce à Eric Orsena et Francis Latreille. Nous nous glisserons dans le studio privé de Marc Cérone. Et puis nous irons en reportage à La Réunion dans un cimetière au bord du lagon. Jean-François Samelong vous racontera l'incroyable légende de Citarane. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener comme ça un peu partout dans le monde.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Kérad.
Et on commence cette émission avec la confidence, la petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrini qui s'est confié sur le plateau télé de la librairie francophone, version TV donc, diffusée chaque mois sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3 et ici RTV de Radio-Canada. Voici le son de sa confidence. Bonjour Jean-François Bernardini.
Bonjour.
Une confidence pour la librairie francophone à la télévision.
Une confidence de chanteur, alors.
Oui, si vous voulez.
On avait enregistré avec Florent Pagny, un chant polyphonique Terra.
Oui.
Et on avait chanté à différentes émissions. Et puis, quelques temps après, c'était les années 2010 ou un truc comme ça. Et il nous a invités à participer à son concert à Bercy. Il dit, vous venez, on va faire ce chant-là à Bercy, ensemble. Et donc, l'après-midi, nous, on était dans les loges, mais on fait les balances et tout ça. Bon, t'imagines, un chant, 3 minutes, quoi. Pour nous, c'était les vacances, quoi. Je crois même qu'on a fait la sieste l'après-midi. Et puis,
parce que les concerts du Mouvrigny durent 4 heures environ.
Non, pas tout à fait, mais. Et donc, l'après-midi, donc, on est là, puis on attend le moment, le concert commence, on va voir un peu, et puis on était un peu assoupi. Puis à un moment donné, on nous dit, c'est à vous, là. C'est à vous. Et on y va, on était donc, on avait un emplacement bien précis, ouais, avec Florent, mon frère, on était 4 ou 5. Et puis Terra, c'est un chant assez fort, quoi. Et puis je commence Terra, et puis j'ai failli m'évanouir, quoi.
Ah bon?
Ouais, j'ai failli m'évanouir. J'ai dû avoir un malaise vagal, quoi.
Ah oui?
Ouais. J'ai failli m'évanouir. Ils m'ont soutenu, quoi. Ça, ça veut dire quelque chose des polyphonies, quoi. Et puis j'ai repris mon souffle, quoi. J'ai failli comme ça. J'ai titubé, et puis
un vertige,
puis
on a repris. Comme ça,
voilà,
ça
une
arrive,
sorte de vertige, ouais. Un effort soudain comme ça. Beaucoup de décontraction avant, pas assez de. Voilà, quoi.
C'est ça.
Donc je crois que Florent doit s'en souvenir, nous on s'en souvient.
Il faut rester concentré.
Ouais.
Merci Jean-François. Merci. Voilà, après cette confidence inédite de Jean-François Bernardini du groupe Corsi Mouvrini, voici le voyage immobile. Nous sommes dans un lieu choisi par une personnalité, lieu qui lui fait penser à un autre endroit, quelque part dans le monde. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Jean?
Mais ça va très bien, ça va très bien.
Bon, merci d'avoir accepté ce petit jeu avec nous. Vous publierez le 7 octobre un récit sur Baudelaire. On attend ça avec impatience, on va en toucher deux mots, comme on dit. On est dans un endroit très particulier. Jean, franchement, je ne m'attendais pas à ça, moi.
C'est le Jardin des Plantes à Paris, ça se trouve juste à côté de la gare d'Austerlitz, et je trouve que c'est un endroit magique. Il y a une impression, un sentiment d'être au 19e siècle, on se croirait aussi dans une bande dessinée de Tardy et tout. Il y a un zoo, avec là on a des flamants roses devant nous, des fauves, et quand j'étais jeune, je me souviens que quand je passais le soir, après avoir fait la fête sur le quai, j'entendais de l'autre côté des grilles des grognements de fauves et tout, je trouvais ça incroyable.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fauves.
Ouais.
Alors, il y a des fauves, il y a aussi des serpents, et c'est ça que vous voulez voir. Il y a un vivarium, là, juste, on est à l'entrée, dans cette ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. On va entrer, parce que vous avez une histoire particulière avec les serpents,
ouais.
Et on va en voir un très imposant.
Oui, c'est une vipère du Gabon.
Oui, alors allons-y. Voilà, donc ça va résonner un petit peu, vous allez entendre. Avec plein d'aquariums, enfin de vivariums autour de nous. Évidemment, on est protégé par des vitres.
Et c'est sombre, il y a des petites mosaïques.
Alors là, on a un gecko géant de Nouvelle-Calédonie qui se confond parfaitement avec un petit tronc d'arbre. Il y a une sauterelle d'ailleurs à côté, à mon avis, c'est pour... c'est pour son repas de ce midi ou de ce soir. Et voilà, donc la vipère du Gabon...
reptile de l'Afrique de l'Ouest qu'on trouve de la Guinée au Togo avec une tête triangulaire énorme.
Ouais, ça donne pas envie de la croiser, effectivement, dans la nature.
Alors pourquoi les serpents, Jean-Tolé, avant de raconter votre histoire dans un autre lieu quelque part dans le monde ?
C'est parce que justement, à chaque fois que je viens ici, ça me rappelle cette histoire que j'ai vécue en Martinique. Il y a une trentaine d'années, j'étais encore dessinateur de bande dessinée. J'aimais bien faire des reportages un peu partout dans le monde où je cherchais des dingos, des gens originaux et tout. Et on me dit, ah ben, il y en a un qui est pas très loin ici, sur la montagne Pelée, à Monte Capo. C'est un type qui s'appelle Emmanuel Alexandrine, qui est un type très dangereux, tueur et tout, et qui vit tout seul dans une forêt et tout, et qui ramasse des trigonocéphales. Les trigonocéphales, c'est des serpents martiniquais qui ont une tête en triangle et tout, et qui ont un venin hyper mortel.
Comme la vipère du Gabon derrière.
Voilà.
Mais en plus petit.
Voilà. Et je leur dis, bah, je vais aller le voir et tout, est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour le rencontrer ? Et à la radio, il dit, nous, on va pas le voir, ce type-là, il est vraiment trop dingue, trop dangereux. Et il y en a un qui me dit, moi, je veux bien vous emmener à Monte Capo, à l'entrée de la forêt, et je vous indique, mais j'y vais pas, personne ne veut rencontrer ce mec-là. Et j'y vais, il me laisse à l'entrée du chemin, et il me dit, ben voyez, là, il y a un sentier, vous marchez peut-être une heure et demie, puis vous allez forcément tomber sur le type. J'y vais, et je vois une petite cabane en tôle et tout ça, et je vois un type qui en sort noir, très maigre, très beau, et avec des yeux bleus intenses, incroyables, et un regard bizarre, un regard de serpent. Et je lui dis, alors il paraît qu'on a tué sa mère, j'avais appris qu'il avait tué sa mère. Il dit, oui, je l'ai empoisonné avec du boudin à cochon. Je dis, très bien, et tout. Et pendant qu'il me raconte tout ça, je vois qu'avec un crochet, les petits caches qu'il y avait autour de moi, il soulève une trappe grillagée, verticale, comme ça, et les ouvre les unes après les autres, et moi je regarde tout en parlant, et puis je vois des serpents qui sortent tout tranquillement de chacune des cages, tout autour de moi. Et puis là je me dis, mais monsieur Alexandrine, mais qu'est-ce que vous faites ? Et il me dit, je suis méchant, je suis même l'être le plus méchant sur Terre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il me dit, ben, ils vont vous attaquer, ils vont vous tirer à la cheville, vous allez aussitôt ressentir une très grande brûlure, dans 5 minutes votre cheville va gonfler comme une épaule, elle sera marbrée, dans 10 minutes vous allez avoir des pulsations irrégulières du cœur, dans 20 minutes, vous allez devenir aveugle, aurez très mal au ventre, et dans une demi-heure, je vous enterre dans la forêt. Et moi, j'étais là, putain, je vais mourir dans la forêt de Monte Capo. Et puis, finalement, il ramasse un peu ses serpents, il les range vaguement. Moi, j'étais blême, j'avais la bouche sèche. Il me voit, il me dit, je vais vous donner à boire. Alors, je rentre dans sa cabane, je vais poser le gobelet sur la table. Oh, une mygale. Je regarde autour de moi, il y avait des mygales partout. Et là, tout d'un coup, j'entends crac. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi qui a fait crac ? Il dit, c'est la grosse méchante, je l'ai succombé. Et puis, j'ai dit, bon, ça va aller, monsieur Emmanuel Alexandrine, je vais rentrer. Et je suis parti, et je me suis dit que plus jamais je reviendrai à Monte Capo. Mais en revanche, j'aime bien revenir au Jardin des Plantes, parce que ça me rappelle cette histoire.
Bon, on va parler de Baudelaire vite fait pour terminer, Jean Tellet, parce que dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, il y a un poème qui s'appelle Le Serpent qui danse.
Oui.
Dans lequel il évoque sa maîtresse Jeanne Duval.
Exactement, qui a été le grand amour de sa vie. Ils ont vécu 20 ans ensemble, avec des ruptures extrêmement violentes et tout. Et c'était une femme très, 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 très bizarre, et ça a été le grand amour de sa vie. Et dans Crénom Baudelaire, là, mon prochain roman, je l'ai appelé Crénom Baudelaire parce que le dernier mot qu'il a dit, c'est Crénom. Il sortait d'une église, de l'église Saint-Loup à Namur, et en sortant de l'église, il a basculé, il est tombé sur le front en disant Crénom, et il est resté bloqué sur ce mot jusqu'à la fin de sa vie. Et je raconte sa vie de l'âge de 5 ans jusqu'à son enterrement. Et c'est ce qu'on appelle quelqu'un, Baudelaire, à la fois illustre et inconnu. Tout le monde connaît Baudelaire, tout le monde connaît Les Fleurs du Mal, mais je crois que très peu de gens connaissent la vie de Baudelaire, et ça vaut le détour.
On en reparlera bien sûr dans la librairie francophone. On est face à des flamants roses avec des canards aussi qui sont juste derrière. Et puis des enfants tout autour, des flamants roses, très roses. Ils sont magnifiques, ils sont à à 3 mètres de nous, Jean Tellet. Merci beaucoup, Jean.
Merci à vous, Emmanuel.
Merci beaucoup pour ce voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Crénom Baudelaire sortira le 7 octobre. Vous allez donc tout dire sur Baudelaire. On remercie aussi la ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. À suivre un entretien agité avec Marc Serron dans son studio parisien, pas très loin d'ici. On va aller face aux deux magots à Saint-Germain-des-Prés. Et puis tout à l'heure, nous irons sur l'île de la Réunion avec une légende incroyable, Jean Tellet. Vous allez écouter ça dans un cimetière tout au bord du lagon avec Jean-François Samelon. Avant cela, voici...
Connais, j'y suis allé déjà aussi.
Ah oui, vous connaissez la tombe de Citarane.
Ouais.
Bon, voilà, alors il connaît. Restez à l'écoute, voici de la musique avec la lune et le soleil.
Le soleil.
C'était la lune et le soleil avec Bonnie Banane sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Après le Jardin des Plantes, on se retrouve en plein Saint-Germain-des-Prés chez Serron.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Bonjour Marc Serron.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous à Paris. Vous publiez votre autobiographie Paradise aux éditions EPA. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, Marc, à la fin du livre. Vous dites « Ce n'est pas parce que l'on ne naît pas avec les meilleures cartes en main que l'on ne peut pas réaliser ses plus grands rêves. »
Ben, j'en suis un peu la propre. Enfin, il n'y a pas que moi. Mais c'est pour dire que oui, évidemment.
Alors ici, on est dans le quartier littéraire, culturel, à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pas très loin de nous. Je vais essayer d'être vague pour pas donner l'adresse, mais il y a deux cafés célèbres, le Flore, les deux Magots. À l'âge de 6 ans, Marc Serron, vos parents divorcent et vous vous trouvez en pension dans un orphelinat et ça se passe très mal. Vous parlez de 2 ans de prison et c'est un moment qui est assez dur pour vous. Vous allez en vouloir à vos parents d'ailleurs, vous l'expliquez dans le livre.
Oui, ça a été 2 ans difficiles. Alors, je me suis retrouvé dans un orphelinat tout simplement parce que j'étais en milieu de saison. Ça n'a pas été facile, oui. Mais bon.
Alors, 2 ans plus tard, c'est votre mère qui obtient votre garde et vous vous mettez à jouer de la batterie. Alors, sans doute une batterie, petite batterie comme celle qui est derrière nous, qui est plutôt une batterie électronique, là, mais une batterie, voilà, à l'origine, chez un commerçant, vous l'essayez. Le commerçant dit à votre mère, ce petit est doué, il faut lui acheter cet instrument. C'est ce qu'elle fait, d'ailleurs. Votre mère, vous aviez un deal avec elle. Elle vous dit, si tu restes à l'école, si tu te fais pas virer de l'école, je t'achèterai ta batterie.
Et voilà. Et j'ai tenu parole et c'est incroyable qu'elle ait eu cette idée. La logique, c'est comme je tapais un peu partout, donc voilà, il y avait une logique. Et en fin de compte, elle m'a présenté mon meilleur ami. Ça a été ma batterie, mon meilleur ami de toute ma vie, oui.
Vous fréquentez des soirées et vous rencontrez le patron du Club Med.
C'est une copine qui était bien plus âgée que moi et elle avait un studio. Donc je vivais chez elle et comme elle s'est fait engager au Club Med, 48 heures avant les départs dans les saisons, Gilbert Trigano les invitait... Il faisait une grosse soirée, ce qui est ça. Et en fin de compte, à un moment donné, il est passé vers nous et il m'a vu que je faisais un peu la tête, quoi. Un, j'étais un petit peu amoureux. Et deux, pour moi, c'était un problème assez conséquent qu'elle allait se présenter. Et il a vu que je faisais la tête et il m'a dit, tiens, il a pas l'air content, le monsieur. Et je lui explique le pourquoi et il me dit, mais pourquoi tu viens pas au Club Med? Eh bien, fais une saison, viens au Club Med. Et je lui dis, je peux pas. J'ai décidé que je ferais de la musique et je veux faire de la musique et je peux pas faire de la musique chez vous. Il me dit, ah bon, on fait pas de musique au Club Med? Pourquoi on fait pas de musique? Je lui dis, bah oui, vous devriez avoir des groupes qui jouent un peu partout. Il m'a dit, tu saurais faire ça? Je lui dis, bah oui, c'est facile. Il appelle un mec dans la salle et il me le présente. Et enfin bref, je me suis fait engager au Club Med et je suis resté 1 an et demi. Et j'y ai trouvé les meilleurs éléments que je cherchais pour monter un gros groupe. Ce groupe a existé, c'est appelé Congas.
Un premier album avec Barclay et ce titre, Jungle.
Jungle qui devient un succès.
Jungle qui est un succès, effectivement. À partir de là, c'est la fête, Marc Cerrone. Un peu la débauche aussi. Sexe, drogue et alcool sont votre quotidien. Et même après l'aventure Congas, vous êtes très axé sur la cocaïne et sur le sexe, Marc. Vous en parlez beaucoup de la cocaïne et du sexe dans le livre. Si.
Je vous assure. Ah non, je vous assure, il ne l'est pas écrit comme ça, puisque.
Ah si, plusieurs fois.
Il l'a vécu comme ça. C'était une période 70s, très drogue, sexe, alcool, tout ça. Pas de débauche, mais d'excès. Moi, je dirais pas que c'est de la débauche.
D'accord.
J'ai connu la drogue dans les à peu près 3 ans, dans le début des années 80. Et je n'ai aucune raison de mentir ou de cacher. On le voyait, oui, mais on n'y touchait pas. Je vous répète, moi, j'ai dû commencer ça vers les années 82, je crois. J'avais résisté parce que ça ne m'intéressait pas, mais il y en avait, c'était à foison.
Vous avancez, hein, malgré les excès, vous montez des affaires, des magasins de disques, d'ailleurs, qui marchent très bien. Et puis, il y a un titre qui a une histoire incroyable. Vous restez quand même dans la musique et vous créez ce titre, Love in C Minor. Personne ne veut de ce titre à l'époque, Marc Cerrone, et c'est sur un malentendu qu'il se retrouve à New York, et on vous pique le titre. Il y a quelqu'un qui fait une reprise.
Absolument, je quitte le groupe Congas, et il y a un magasin de disques sur les Champs-Élysées à l'époque qui s'appelait Chandis, qui est un petit peu l'amphithéâtre de tous les DJ qui veulent acheter des disques internationaux. Je baratine le mec en lui disant que j'ai l'exclusivité sur un import anglais. S'il en veut, faut qu'il passe par moi, qu'il écoute. Bref, 5, 10, 20, 30, et il voit que ça commence à fonctionner. Et un jour, il m'appelle en me disant, livre-moi-en 300, on fait les comptes à la fin du mois. Le problème, c'est qu'il me rappelle 2 jours après, je croyais qu'il avait tout vendu. Il me dit, non, j'ai un imbécile de magasinier, s'est trompé, au lieu de renvoyer des Barry White défectueux ou XY, il a renvoyé les tiens. Sauf que les 300 reviennent jamais. Là-bas, le grossiste, quand il reçoit le carton, il voit que c'est pas les bons. Il écoute. Coup de peau, il fait écouter un de ses vendeurs, qui est DJ le week-end, qui va le jouer dans un club à New York. Ça fait boule de neige, tout le monde demande ce que c'est. Et on me dit avec insistance, ton disque est top 10 aux États-Unis. Je regarde dans les pages de Hit Parade et je vois la Vinci Minor, mais je vois un nom avant, The Art of the Soul Orchestra.
Alors ça part de là, hein, c'est que vous avez un gros succès aux États-Unis. Vous dites d'ailleurs que les médias français vous ont longtemps boudé, Marc Cerron, ça vous a un petit peu atteint, parce que vous avez une mauvaise image en France, vous circulez en Rolls, vous faites plaisir en fait.
Aux États-Unis j'étais très entouré, ici j'étais indépendant, pas de manager qui me dit ça tu fais pas, ça si, ça ouais, ça non. Donc je l'ai appris sur le tas, ouais. Qu'il y a des choses qui ne se font pas. On n'est pas obligé, ça devient de la provoque.
Pourquoi ça se fait pas? Si, ça peut se faire.
Non, ça se fait pas, parce que quand je suis devenu ce qu'on peut appeler un peu plus mûr, aujourd'hui, je j'oserais pas rouler en Bentley, j'adorerais, non, j'oserais pas, il y a trop de gens dans la misère, il y en a trop qui souffrent, si j'ai envie de me payer des choses de valeur ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de l'exposer.
C'est trop ostentatoire, c'est ça?
Trop ostentatoire, tout à ouais. fait, tout à fait.
Là, on est à votre console, hein, on va dire, avec des magnifiques fauteuils en cuir, très confortables d'ailleurs, des écrans qui sont devant nous, des enceintes évidemment. Dans ce studio-là où on est, est-ce qu'il y a un objet auquel vous tenez particulièrement, Marc Cerron? Est-ce que vous êtes attaché aux objets?
Oui. Tout?
Oh, pas plus qu'il n'en faut. Mais oui, mes awards américains, les français, j'en ai quelques-uns.
Ils sont où les awards américains là?
Bah là-haut, les cinq là-haut, là c'est le Golden Globe, là c'est le Chevalier des Arts et des Lettres, là c'est... J'en ai un petit peu partout, mais je les mets pas en vitrine comme certains. Je les éparpille dans l'appartement et dans le sud, dans ma maison.
Vous aimez les récompenses, les honneurs?
J'aime pas l'objet qu'on me remet, mais j'aime le fait d'être reconnu par mes pairs, oui, ouais. Parce que je suis un tel autodidacte. Ouais. J'ai tellement passé de nombreuses années au début de ma carrière pensant qu'ils étaient fous, quoi. Je voulais tellement pas être le trompeur que j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé et appris pour tenter d'être au minimum à la hauteur.
Merci beaucoup Marc Cerron. Votre livre Paradise, autobiographie, est paru aux éditions EPA. Merci Marc.
C'est moi.
Et on part dans le Grand Nord avec le club francophone d'Éric Orsenna qui convie Francis Latreille.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone Estivale. Emmanuel Guérade.
Éric Orsenna et Francis Latreille sont donc avec nous pour Les Derniers Peuples des Glaces, paru chez Gallimard. Dans la préface que vous signez, Éric Orsenna, vous racontez votre fascination et votre passion pour le Grand Nord, qui commence avec votre maman.
Et oui, parce qu'elle m'avait appris à un petit baiser, comme ça, avec les yeux et avec le nez, comme ça. Et c'était pas seulement avec la bouche. Donc, je me suis dit que ça devait être incroyable d'aller dans le Grand Nord. Et donc toujours, je me suis dit, tiens, est-ce que on peut s'embrasser comme les Esquimaux?
Et c'est ça.
Et alors, ça a été la première chose, parce que moi, je dois tout à ma maman qui me racontait des histoires. Et puis après, je dois tout à l'amitié, et donc l'amitié de Francis Latreille, parce que moi, j'adore raconter des histoires, donc j'écoute plutôt, et lui, il sait voir. Donc à nous deux, on est un peu complet.
Vous êtes reporter photographe, c'est en compagnie de Jean-Louis Etienne que vous explorez les terres du Grand Nord, l'Arctique qui compte 8 pays, dont la Russie, les USA, le Danemark, la Suède et le Canada. Avant de parler de ces peuples, parlons économie. Entrons dans le vif du sujet, il y a un enjeu économique sérieux en Arctique?
Absolument, tout se bouscule un peu dans l'Arctique avec le changement climatique. Des voies nouvelles s'ouvrent parce que les glaces fondent à une allure grand V. Donc là, il y a des exploitations de gaz, de pétrole qui sont en activité maintenant dans des zones qui étaient des zones de nomadisation. Par exemple, en péninsule de Yamal, les nénettes ne peuvent plus transhumer pratiquement parce que c'est coupé tout leur territoire du lichen, là, est coupé par les oléoducs et ça pose de sérieux problèmes pour ces ethnies.
Certains s'en réjouissent alors, parce que ça ouvre des passages aussi entre les pays, ça permet de circuler entre les pays.
Vous gagnez entre l'Europe et l'Asie, vous gagnez plus de 5000 kilomètres, ça vaut des convoitises.
Et il y a les Inuits du Groenland aussi qui, selon vous, selon votre livre en fait, sont entre inquiétude et confiance face justement à ce changement climatique. Vous dites que les Groenlandais incitent même les peuples arctiques à réfléchir aux opportunités qu'apporterait le changement climatique.
Bien sûr, c'est assez ambigu parce que il y a cette transition entre la culture ancestrale et puis ce monde qui bouscule tout le monde, ce monde d'Internet. Donc ils sont, en 20 ans, ils sont passés d'une culture ancestrale à la culture d'Internet. Donc là, ça provoque des graves fêlures, bien sûr, un grand écart. Et effectivement, certains Groenlandais se réjouissent des perspectives gazières ou pétrolières, qui est des mines aussi qu'ils veulent ouvrir au sud du Groenland.
De toute façon, l'homme va s'adapter. Le problème, ce sont les animaux et c'est la nature, parce qu'eux ne vont pas s'adapter comme l'homme. Et c'est ça qui est en danger. Alors les rennes, il y en a partout. Hein. Vous parlez des rennes à chaque fois,
bien sûr.
Ils sont en danger également.
Oui, bien
les
sûr,
rennes.
Ils sont menacés parce qu'avec le réchauffement du permafrost, c'est un grave problème. Le permafrost, très très grave problème. On occulte un peu ce dossier, mais c'est un très grave problème.
Et c'est la couche de glace en fait qui est dans la terre, très profondément ancrée, qui a permis de construire des habitations notamment, et qui renferme plein de choses et qui est en train de fondre.
Et ce permafrost a commencé sa fonte, et ça dégage dans l'atmosphère du méthane, qui est quand même beaucoup plus corrosif, je crois 26 fois plus corrosif que le CO2. Et c'est des milliards de tonnes de méthane qui sont enfouis dans ce permafrost. Le permafrost, c'est 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Mais c'est énorme, le permafrost.
Alors, ces animaux, c'est un vrai souci parce que ils en vivent. Tous ces peuples vivent grâce à ces animaux. Ils les domestiquent, ils les chassent, ils les préservent, ils les protègent. Il y a comme ça cette relation à l'animal et à la nature très, très proche en fait. Il y a la Yakoutie, le pays des mammouths, l'endroit le plus froid de l'hémisphère nord, moins 60 degrés, Eric Orsena. Il y aurait 5000 tonnes d'ivoire pris sous les glaces
avec
des défenses de mammouths.
Bien sûr.
Et là encore, ça attire les convoitises, parce qu'on se dit que l'ivoire, cet ivoire-là, il est légal, contrairement aux défenses d'éléphants aujourd'hui.
Oui, donc l'ivoire de mammouth n'est pas interdit par la convention de CITES. Donc, les défenses d'ivoire ressortent du permafrost, les carcasses aussi. Et donc, cet ivoire de mammouth, la Yakoutie en exploite actuellement environ 80 tonnes par an. Et cette ivoire de mammouth est légale. Mais si elle sort dans le permafrost, au bout de 2 ans, elle explose, elle implose. Parce qu'avec l'humidité et le gel, font que ces défenses vont exploser de toute façon. Donc elles ont une durée de vie très courte quand elles sortent.
Mais c'est vrai
qu'il y a des trafics.
Enfin, c'est terrible parce que c'est du business entre Chinois.
Parce que les Chinois, ils ont une frontière commune pratiquement, ils sont à côté. Donc ils vont chercher l'ivoire.
Comprenez, si notre planète n'était pas belle, si les gens qui sont partout sur cette planète n'étaient pas intéressants, s'ils n'avaient pas inventé sans arrêt des sortes de pactes avec la nature, on s'en foutrait de cette planète. Mais elle est magnifique, elle est diverse, elle est d'une richesse insensée. Et donc, rien n'est plus loin que tous ces gens fous qui disent « Bon, on a salopé notre planète, et maintenant on va aller s'installer sur un rocher de merde à plusieurs milliers d'années-lumière. Ouais. » C'est débile.
Bon, il y a des images sublimes dans ce livre, avec des campements, des petits villages au milieu de nulle part, comme ça, dans le froid et la glace. On voit la vie de ces peuples, leurs traditions aussi que vous racontez. Il y en a une qui est très touchante et qui montre leur respect pour la nature et les animaux, même s'ils les chassent. Quand un chasseur inuit tue un phoque, il doit caresser l'animal mort et lui déposer un petit morceau de glace dans la gueule. Francis Latreille.
Oui, c'est la tradition. Là, je suis allé dans une communauté inuite au mois de mars dernier. C'est leur culture, c'est pour les accompagner dans l'au-delà, donc il ne faut pas qu'ils...
Pour pas qu'ils aient soif en montant au paradis.
Oui, donc ils vivent de la chasse au narval, ou à la baleine, ou à l'ours polaire. Effectivement, ça peut paraître un peu dur pour nous, occidentaux, mais c'est leur survie.
Au nord de la Russie, il y a le peuple Tchouktch, à proximité du détroit de Bering, chasseur de morses et de baleines. Francis Latreille, vous y avez côtoyé des artistes, et on a retrouvé justement des chants Tchouktch, et avec un titre qui s'appelle justement « Le détroit de Bering », écoutez. Ça vous rappelle des souvenirs, Francis?
Bien sûr. En Tchouktcha, justement, il y a beaucoup de chants de gorge, qu'on appelle. Ces chanteuses imitent le son de la mouette, enfin, tous les animaux qui les entourent dans leur univers.
Leur quotidien.
Leur quotidien.
Ouais. Et le changement climatique peut aussi, à moyen terme, faire disparaître ces cultures. Donc, sédentariser les peuples, rapatrier dans des endroits moins reculés et, d'une certaine façon, les intégrer, comme on dit, dans nos sociétés industrielles.
Oui, malheureusement, c'est le sort qui leur est réservé. Moi, par exemple, les Dolganes en péninsule de Taïmyr, qui est la péninsule la plus nord de la Sibérie, ces Dolganes, ils étaient 250 quand je suis passé les voir la première fois en 2000. Ils ne sont plus que quelques dizaines maintenant. Ils sont plus que 60 parce que les femmes et les enfants reviennent, ils ont des subventions, ils reviennent coller dans les villages.
Eric Orsena, il y a l'Antarctique qui lui est le pôle sud, qui est protégé jusqu'en 2049 de toute tentative d'exploitation industrielle. A contrario, ce n'est pas le cas de l'Arctique. Pourquoi ?
Mais d'abord parce que là, il y a eu des actions de politique, et notamment de Michel Rocard.
Ancien premier ministre français,
qui a convaincu le président Bush père de signer cet accord. Et là, c'est l'exemple même d'une action.
Eh oui.
Parce que s'il n'avait pas été là, s'il s'était pas mis d'accord avec son copain, le premier ministre australien, eh bien, il y aurait des mines qui seraient exploitées dans tout ce continent énorme. Donc, l'action politique, c'est pour ça que je disais, à décision toutes les politique. Échelles, nous, mais aussi forcer les politiques à agir.
Bon, merci beaucoup Eric Orsena, merci Francis Latreille. Les Derniers Peuples des Glaces, très beau livre, est publié chez Gallimard. À noter aussi Eric, votre portrait de Beaumarchais aux éditions Stock. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, un nouveau reportage à La Réunion, dans un lieu très particulier, au bord du lagon, avec un criminel qui a créé la légende et l'effroi sur l'île. Ce sera après le titre acoustique de la semaine. Voici Swad Massi dans le grand studio de la librairie francophone.
قلت لك يدي ضربتني بموس وانا لي كنت خارجة من حرب قلت لك خدي كسرت لي دروس وانت تاكل وتشرب قلت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب والمصافير لون ودار وانا اللي عطيت لك باش تضرب يا ربي حط عليا يدك اللي شوفك يقول اقمر ضاي وجهك بخبي سرك وانت في الصح كلمية في القبر مت في قلبي مية قلبك القمر في السماء واضح باين واش جاب الشوك للريحان انا من البعيد نسبي داين وانت من البعيد تبان انسان يا ربي حط عليا يدك واللي مظلوم حقه يبان وش حال بكيت وقلبي براد قوت ما تعمر بالألام وكرهت روحي وكرهت الوار كل فرحة فوجة تترسم
La magnifique artiste algérienne Souad Massi avec Oumnia sur votre radio francophone. Une nouvelle escale dans la librairie estivale avec un nouveau voyage à La Réunion pour une histoire et une rencontre incroyable au bord de la mer.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Nous sommes en front de mer, ici à Saint-Pierre, à La Réunion, devant un lieu très important pour tous les Réunionnais. Bonjour Jean-François Samelong.
Bonjour.
Vous êtes poète, romancier, essayiste. Vous avez fondé ici, à La Réunion, l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise, qui œuvre notamment pour promouvoir la culture et la littérature de l'île. Et vous vous intéressez aussi, dans vos romans, à l'histoire et aux légendes de La Réunion. Et vous avez choisi de nous emmener dans un lieu un peu particulier, ça m'a surpris moi au départ.
Ce lieu, il est quasiment mythique, si je puis dire. Bon, déjà, le cimetière...
Alors déjà, c'est le cimetière, oui. Commençons par le début.
Voilà. On est là devant le cimetière de Saint-Pierre, qui est dans notre dos. En face de nous, il y a la mer, il y a le ciel, un temps magnifique. Mais derrière nous, quand même, le cimetière, il y a la tombe de Citerane, qui a été un criminel abominable vers les années 1909-1911. Avec ses amis Saint-Ange et Fontaine, ils ont tué 2, 3, 4 personnes dans des conditions exécrables, et ils ont été arrêtés, Citerane et Fontaine, guillotinés. Donc leur corps se trouve ici, au cimetière de Saint-Pierre.
Voilà, on va entrer dans ce cimetière. Tout ce que l'on doit dire sur Citerane de négatif, on va le dire ici, car à l'intérieur, il y a des gardiens, notamment un gardien qui surveille la tombe 24 heures sur 24, qui se sert finalement des offrandes aussi, disons les choses, oui, pour pouvoir survivre, en même temps un peu logique. Mais sur place, on ne va pas pouvoir dire grand-chose de négatif sur lui.
Non, parce que déjà, il y a beaucoup de Réunionnais qui ont transformé, si vous voulez, cette figure criminelle de Citerane en une figure de héros. Très tôt, après 1911, ils ont vu en lui une figure de vengeur, une sorte de Zorro, qui vient les venger de l'esclavage qui a duré près de 2 siècles à La Réunion, puisque Citerane est un Africain, un Mozambicain. Et donc, il a osé, si vous voulez, défier la loi, défier les gendarmes, et en laissant croire qu'il avait des pouvoirs tout à fait extraordinaires. Beaucoup de Réunionnais se sont identifiés à Citerane, mais beaucoup de Réunionnais aussi craignent Citerane. Ils ne veulent même pas en prononcer son nom, ni qu'on prononce son nom en leur présence. Par exemple, en 2012, lors de l'apparition de mon roman « Il guillotine dans un train de nuit », dans lequel je raconte l'histoire de Citerane, certains parents ne veulent pas que ce livre entre dans la maison, dans la bibliothèque. Voilà, donc personnage ambivalent, on vient surtout voir Citerane pour qu'il fasse plus le mal que le bien.
Voilà. Bon, voilà. Si on en a après quelqu'un, on vient ici, au lieu de piquer une poupée, on invoque Citerane.
Voilà, c'est plus pratique. On lui demande de jeter un sort, de nuire à telle personne. Après, c'est une question de croyance. Et là, pour que, si vous voulez, ce sort soit vraiment efficace, on lui offre à manger, à boire de l'alcool le plus souvent, du rhum local, des cigarettes à fumer. On lui fait des sacrifices d'animaux également sur sa tombe. Donc, on l'abreuve de sang. Tout cela pour qu'il exauce les vœux de ceux qui viennent le prier, soit le jour, soit la nuit.
Devant nous, il y a la route du front de mer, comme on dit ici. On a la barrière de corail avec les magnifique, rouleaux, hein, que l'on voit. Là, c'est magnifique parce qu'il y a un ciel très bleu, la mer est éclatante. Et juste en face, donc, ce cimetière en front de mer. Finalement, on n'est pas si mal jusqu'au bout, ici à Saint-Pierre, avec des marchands de fleurs. Et on va entrer dans ce fameux cimetière et on va être très gentil, surtout avec le gardien de la tombe, on ne sait jamais. On arrive au fond du cimetière, en fait sur le côté gauche du cimetière, il y a un mur gris évidemment qui délimite l'espace consacré aux morts. Et puis tout au fond, donc sur le côté gauche, il y a une grande croix noire que l'on voit d'ici avec un bandeau rouge autour. Et puis voilà, le frangipanier qui est juste au-dessus de la tombe de Citerane, frangipanier blanc.
Blanc. Très vieux,
très vieux,
âgé, oui.
Donc, et qui penche aussi, vraiment, c'est étonnant parce que le frangipanier, quand on le voit d'ici un peu de loin, il plonge sur la tombe de Sitaran.
Voilà, il lui offre une ombre.
Et il y en a plein d'autres autour, hein, donc il a choisi celle-là.
Il a choisi ça, donc, et puis le frangipanier, dans notre culture, assure un lien, si vous voulez, entre le ciel et la terre. Donc, les fleurs tendues vers le ciel et puis les racines qui plongent dans la terre, qui vont rejoindre l'âme de Sitaran. Voilà, il y a toute une symbolique du frangipanier dans le cimetière.
Alors, il s'étend horizontalement sur une dizaine de mètres. Et ce qui est très troublant aussi en voyant d'ici, c'est que sur le côté gauche du frangipanier, il n'y a pas de feuilles. Mm-hmm. Et juste au-dessus de la tombe, il y a plein de feuilles et plein de fleurs.
Voilà, exactement. Et juste,
ça inquiète dès qu'on arrive.
Voilà, et juste au-dessous du feuillage du frangipanier et des fleurs blanches, donc il y a l'ombre d'Amouni, le gardien de la tombe.
Voilà, avec une chemise bleue.
Une chemise bleue, on dirait que c'est le fantôme de Sitaran qui est là. Mais il n'est pas dangereux, absolument pas. Bon,
on espère, on ne sait pas. Là.
Non, il boit beaucoup, mais il reste toujours très gentil. Chaque fois que je viens ici, je discute avec lui.
Ah non, mais sur le moment, oui, c'est après, moi, ça m'inquiète.
Non.
Bon, voilà, donc la tombe de Sitaran qui est peinte en rouge avec des traces noires, de grosses traces noires, car on brûle des choses ici.
Oui, on brûle des bougies. Il y a des cigarettes qui sont qu'on allume et puis qu'on laisse normalement dans une soucoupe pour que Sitaran puisse profiter de cela, du parfum des cigarettes, du parfum du rhum, des alcools.
Bonjour monsieur. Un monsieur qui a rejoint la tombe et qui la nettoie un petit peu. Vous la nettoyez la tombe?
Bonjour monsieur. C'est pas moi qui nettoie, c'est quelqu'un d'autre qui nettoie. Il vient une fois par semaine.
D'accord. Mm-hmm. Mais je vous ai vu prendre les fioles, les...
Oh, j'enlève seulement les chopines. Ouais. Enfin, pas les chopines, les chopines et les bouteilles en plastique. Quoi.
Les bouteilles de rhum.
C'est pas moi qui nettoie. Nettoyer, c'est, ça s'appelle enlever les fleurs.
Et vous venez souvent ici?
Ouais, bien sûr. Une fois par semaine.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous y faites une fois par semaine ici?
Moi, quand je viens ici, j'enlève les fleurs, les bouquets de fleurs séchées. Moi, je prends seulement des petites fioles de vin.
Vous avez pris des petites fioles de vin et de rhum. Ben, voilà. Que vous avez mélangé en plus dans une fiole.
Hein? Ouais. C'est parce que moi, je connais. Lui, il sait faire la sienne. Moi, je connais faire la mienne.
Vous faites votre mélange et lui fait le sien.
Voilà.
D'accord. Okay. Donc, le mélange de rhum et de vin, ça se boit.
Ça se boit, bien sûr.
Oui.
Un sorcier face à un magicien, c'est presque ça. Hein.
Vous êtes magicien?
Ben ouais.
Ouais. Donc, vous êtes plus fort que lui?
Non, je suis à l'égal de lui-même.
C'est magnifique.
C'est pas mal.
Qu'est-ce que vous faites comme magie?
J'aime faire apparaître ce que je veux. Ça veut dire que j'aime les portions frites. Les portions frites et les... Oui, les portions frites de McDonald's, je veux dire.
Oui, d'accord. Ouais.
Les portions frites de McDonald's.
Pommes de terre.
Vous faites apparaître ça.
Du sel. Ben, j'aime bien ça.
D'accord.
Pas de mayonnaise, pas de ketchup.
De McDonald's. Et vous faites de la magie pour ça.
Voilà.
Vous êtes sûr que la magie, c'est pas des gens qui viennent la porter sur la tombe de Sitaran?
Ben oui, j'en suis sûr. Boire, c'est quelque chose. Acheter, c'est quelque chose. Ouais. Offrir, c'est autre chose.
Ouais. Ouais. C'est très bien.
Ouais.
Donc vous vous servez un peu sur la tombe?
Bien sûr. Ah oui, mais moi, je me sers un petit peu.
Je suis venu plusieurs fois sur la tombe et une fois j'ai vu des sacrifices d'animaux, coq, poule, là sur la tombe de Sitaran à l'intérieur. Donc on avait assez du sang des animaux pour l'abreuver de sang. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi je pense que ce que vous mettez, hein, que vous lâchez là sur le sable, ils font cuire, voyons. Mais ils le font cuire. Ben oui, rôti poulet, rôti coq.
C'est jamais perdu, quoi. Ouais, voilà. C'est des sacrifices, mais qui servent forcément à quelqu'un qui passe.
Ça pourrit pas, ça vieillit pas. Et c'est comme ça. Ouais, du rôti coq, rôti poulet.
Bon, merci, monsieur.
Au revoir, France Inter.
Au revoir, merci beaucoup, merci. Bon voilà, on va sortir de ce cimetière, on va laisser le gardien tranquille, le monsieur se servir sur la tombe pour le coup. Merci, bonne journée. Au revoir. Et on sort tout juste de ce cimetière. on a la mer en face, on va se laver un peu parce que
oui.
On a besoin, hein, c'est vrai, c'est un peu lourd quand même, parce que la détresse humaine, on en parlait, on l'a côtoyée là, hein, pour le coup, avec Citarane et tous les personnages qui sont autour, tous ces hommes qui sont un peu perdus dans la vie et qui se retrouvent autour de cette tombe. Et donc juste en face, il suffit de traverser, alors ça va très vite parce qu'on a deux fils seulement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages ici. Deux fils de voiture et hop, en quelques pas, on nous laisse toujours passer ici, ça qui est bien. On se retrouve face au lagon.
Oui, donc là on a l'autre facette de l'île de la Réunion, on a tourné le dos au cimetière de Saint-Pierre, on a tourné le dos à toute la violence commise par Citarane, et là on a face de nous donc cette mer qui est transparente, ce
avec
ciel,
une plage
ce
soleil, de sable, de corail.
Les gens qui se bronzent, qui ne se posent pas de questions quant à savoir la relation entre les vivants et les morts, eh bien ils vivent tout simplement, ils profitent du soleil, ils se bronzent et ils ont raison. Mais en même temps, derrière nous, avec ce cimetière, avec toute l'histoire horrible liée au personnage de Citarane, ça montre bien que c'est encore une île en souffrance. Ouais. Il y a une couche de la population qui vit très bien, même très 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 bien, et puis nous avons les 120 000 illettrés. Sur une population de 850 000 habitants, on a 32% de chômeurs. Donc ce sont des signes très forts sur le plan social qui disent que notre société ne va pas encore très 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 bien aujourd'hui. Mais il y a quand même de l'optimisme, il y a la possibilité d'un espoir, d'un miracle, justement avec cet horizon en face de nous qui s'ouvre sur le monde. C'est tout le bonheur que je souhaite aux Réunionnais de demain, ce regard tourné vers l'horizon.
Et on est face à l'horizon. Merci beaucoup Jean-François Samelong. Je rappelle que votre livre Une guillotine dans un train de nuit est paru chez Gallimard. Merci à vous Jean-François.
Merci beaucoup. Merci.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec Swann Blanchet et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Pierre-Yves de Rolin à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine pour la dernière librairie francophone estivale de la saison, nous serons avec Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, pour un entretien exceptionnel à l'occasion des 50 ans de l'OIF. Et puis un plateau spécial rentrée littéraire avec Daniel Picouli, Didier Decoin, président de l'Académie Goncourt et Amélie Nothomb. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.